Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à vous qui nous suivez par vidéo. Et bienvenue au Seigneur Jésus qui est là parmi nous ce matin, parce que nous sommes plus que deux ou trois. Et nous voulons que ce moment de culte le glorifie, lui. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la famille que nous formons ici à Mérin et avec tous les chrétiens de par le monde. Seigneur, nous te remettons nos frères et sœurs qui souffrent parce qu'ils sont soit malades ou dans la solitude ou dans le deuil. Nous te remettons ceux qui souffrent de la persécution à cause de ton nom. Qu'ils puissent ressentir ta présence physiquement comme si tu leur mettais un manteau d'amour sur leurs épaules. Père, ouvre nos cœurs à l'action de ton Saint-Esprit pour que nous puissions briller de ta lumière en nous. Jésus, reçois toute la gloire qui te revient. Amen. Dieu nous rend lumineux grâce à sa présence en nous, dans nos cœurs. Mais comment faire en sorte que cette lumière ne soit pas ternie par nos préoccupations? Dans 1 Pierre 5, au verset 7, nous lisons « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Qui d'entre vous ce matin peut dire « Moi, je n'ai aucun souci, tout va bien dans tous les domaines de ma vie. » Quelqu'un peut lever la main? Effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Je vous propose une petite mise en pratique du verset qu'on vient de lire. Pour mieux vous concentrer, je vous propose de fermer les yeux juste une ou deux minutes. Imaginez que vous entrez dans cette église en passant d'abord par un vestiaire où l'on peut déposer son sac à dos qui contient nos soucis. Le gardien de ce vestiaire n'est autre que Jésus lui-même. Qu'allez-vous faire? Soit déposez votre sac et entrez dans la salle de culte pour louer Dieu, puis repartir en reprenant votre sac au vestiaire. Ou bien, déposez votre sac, entrez dans la salle de culte pour louer Dieu, puis repartir en remerciant le Seigneur qui se charge gratuitement de votre sac et choisir de repartir allégé sans votre sac, mais en étant assuré que vos soucis sont entre les meilleures mains du monde. Je vous invite à une minute de silence pour nommer dans votre cœur les soucis qui vous pèsent et que vous voulez apporter à Jésus et lui dire, toujours dans votre cœur, soit que c'est trop difficile pour vous de les lui remettre, soit que vous choisissez de faire ce pas de foi, de les lui abandonner, en lui demandant son aide pour aller de l'avant et que sa volonté soit faite dans votre vie. Juste une minute de silence. Les soucis peuvent être de plusieurs sortes. Ça peut être des soucis pour une maladie, pour le chômage, pour des soucis pour nos enfants, des soucis pour nos parents, des soucis pour trouver sa voie dans notre monde, pour la direction, pour les études. Peu importe, Dieu se soucie de chacune de nos préoccupations. Et si vous doutez que le Seigneur se préoccupe vraiment des détails de votre vie, j'aimerais terminer en vous racontant une petite histoire qui m'est arrivée récemment. Alors, je vais la lire pour essayer de ne pas être trop émotive. L'histoire commence il y a 10 ans. Pour mon anniversaire, j'avais souhaité commencer à apprendre le violoncelle. Pour diverses raisons, je n'ai rien entamé, parce qu'il y avait toujours un obstacle, soit l'emploi du temps trop compliqué, le prix de l'instrument, le prix des cours, bref. Du coup, je me suis donné 10 ans pour commencer. ça semble long, mais un mois avant les 10 ans, je n'avais toujours pas décidé si je pouvais me lancer dans ce projet, parce que je voulais vraiment l'approbation du Seigneur. J'ai donc enfin prié. Seigneur, tu connais mon désir depuis longtemps maintenant, mais je souhaite vraiment que ta volonté et non la mienne se fassent dans ma vie. Je te prie donc de m'ôter cette idée fixe, ou alors de t'occuper de tout le reste si tu es d'accord. J'ai laissé un peu tomber ça, parce que j'étais persuadée qu'il fallait vraiment que je laisse tomber. Donc j'ai un peu oublié, et voilà qu'une semaine après, ma belle-mère me téléphone pour me dire qu'une de ses amies cherche une personne qui aurait du plaisir à recevoir un violoncelle, parce qu'elle n'en jouait plus. Est-ce que ça m'intéressait ? Voilà, je vous laisse imaginer les petites émotions qui m'ont traversée. Et effectivement, j'ai pris des cours maintenant. Donc, vous pouvez être certain d'une chose, c'est que Dieu se préoccupe des moindres détails de vos vies, même ceux dont vous dites « non, non, pas ce détail-là, celui-là, il est vraiment insignifiant, et Dieu, il a autre chose à faire ». Eh bien oui, même ce détail-là, Dieu, il s'en soucie. Et je trouve important qu'on partage ensemble nos joies et nos peines, et qu'on se les porte ensemble dans la prière. Et si vous éprouvez le besoin que l'on prie pour vous, à la fin de ce culte, pour l'un ou l'autre sujet, vous pouvez venir à la fin du culte ici avec l'un de nos pasteurs, Célina ou Philippe, ou l'un membre du conseil, et vous pourrez prier avec eux. Et pour vous qui êtes en vidéo, on ne vous oublie pas, si vous avez aussi des sujets et que vous voulez aussi qu'on prie pour vous, vous avez sur le site internet les coordonnées de nos pasteurs. Et maintenant qu'on a déposé nos soucis et nos fardeaux, je vous invite à vous lever pour chanter le Seigneur de tout votre cœur en gardant vos masques.
Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons chanter son amour. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis.
Ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons monter son amour au monde entier.
Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis.
Ouais, merci Seigneur, parce qu'on peut être ensemble pour te chanter, te louer et aussi décharger aussi ce qu'il y a sur notre cœur. Et c'est toujours un privilège d'être vers toi et te dire aussi tout l'amour qu'on a pour toi, et que tu es Dieu de lumière, et qu'on veut te louer de tout notre cœur, parce que tu fais de grandes choses.
Béni soit ton nom.
Soit ton nom, Seigneur, béni soit ce nom glorieux. Alléluia. Nous allons terminer par un chant. Et juste après ce chant, je vous laisserai la liberté de pouvoir vous exprimer de ce temps communautaire, de ce qui a été partagé par Prisca, qui peut aussi nous peser, hein, ces fardeaux. Mais puis ces cadeaux, ces perles que Dieu nous fait aussi. Et je vous invite à prendre après ce chant, ce temps où vous pourrez vous exprimer librement.
Tu m'ouvres les yeux. ici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
Et me voici
pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
Malgré les fautes que je fais, tout ce qui des fois qui détourne de toi, mais tu es là, tu es à mes côtés. Toujours présent vers moi.
Cher Seigneur, ta bonté nous confond. Tu es grand et pourtant si proche. Tu viens mettre du sens, de la vie, de la lumière dans nos vies, parfois compliquées, parfois chaotiques. Tu sais les fardeaux qui sont les nôtres, les épreuves que nous traversons parfois. Et tu viens les traverser avec nous. Tu es un Dieu pour nous. Et nous voulons te dire ensemble notre reconnaissance. Amen.
Seigneur, tu es là de toute éternité. Nous t'adorons comme le Dieu vivant, créateur. Et tu seras encore là de toute éternité. Merci Seigneur, parce que dans ta grandeur, tu es venu jusqu'à nous et tu nous donnes les paroles de la vie éternelle. Nous sommes, Seigneur, tes enfants par adoption en Jésus-Christ qui est né parmi nous, comme un homme. Merci Seigneur pour ce grand mystère auquel nous croyons, parce que tu es vrai, tu es grand, tu es puissant. Amen.
Seigneur, tu nous dis dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Aide-nous et de moi, Seigneur, à laisser ce fardeau dehors, ne plus le reprendre en sortant, et rentrer vraiment dans ce repos que tu proposes. Merci, Seigneur. Amen.
Seigneur, dans ta parole, tu nous dis que ton joug est doux et léger, et ce Seigneur sûrement plus doux et plus léger que le fardeau que nous portons. Alors Seigneur Jésus, dans notre cheminement, Seigneur, que nous puissions déposer et lâcher prise. Seigneur, tu nous appelles à lâcher prise, à donner au pied de la croix, Seigneur, tout ce qui nous pèse et tout ce qui nous empêche, Seigneur, de vivre avec toi. Alors Seigneur Jésus, que nous puissions prendre ce joug doux et léger de ta parole et de ta personne. Amen.
Seigneur notre Dieu, je veux te louer et bénir ton nom. Je veux te dire merci pour toutes tes bontés et ta présence à mes côtés. Merci parce que c'est toi qui me console, Seigneur. Et je te remercie pour ta fidélité et ta présence à côté de moi, jour après jour. Amen.
Merci Seigneur d'être ce Papa céleste qui veut s'occuper aussi bien des détails que des grandes choses dans nos vies. Merci de nous montrer ainsi combien tu nous aimes. Merci parce que pour que nous puissions avoir communion avec toi, tu as payé un prix tellement grand qui nous révèle aussi ton amour. Alors sois loué, béni et adoré dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci Seigneur parce que tu es avec nous jour après jour et tu ne nous laisses pas seuls. Merci parce que tu es particulièrement aussi avec les personnes qui sont malades ou dans le deuil. Tu les consoles, tu les prends dans tes bras, tu leur donnes ton amour. Ô louange et gloire à toi Seigneur Jésus. Amen.
Merci Dieu parce que tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin et que tes promesses sont vraies. Amen.
Oui, Seigneur, que tu puisses nous aider à chaque matin te déposer nos fardeaux, pas seulement le dimanche matin ou quand on y pense, mais vraiment que chaque journée commence par cela, pour que nous puissions vraiment être tes lumières dans ce monde et que nous soyons vraiment déchargés de nos soucis pour que nous puissions briller de ta lumière. Seigneur, je te prie pour Célina qui va apporter le message, je te demande de la bénir, que ton Saint-Esprit soit sur elle, que tu nous parles au travers d'elle. Amen.
Bonjour à chacun, en ce beau jour de l'escalade. Qui dit escalade, qui dit marmite. À combien de marmites vous en êtes? Une? Trois, Claude, waouh! Waouh! Nous, je crois qu'on en est à deux et... Trois? Non, deux. Plus une petite et une autre petite. Alors oui, c'est le jour de l'escalade et c'est un jour de fête, même si malheureusement le cortège dans les rues de Genève a encore été annulé cette année. Alors j'ai choisi une image du mur des réformateurs pour nous accompagner et nous mettre dans l'ambiance. Ce matin, vous nous voyez arborer, Prisca et moi, des choses surprenantes. Mais non, en fait, il ne s'agit pas de déguisement. Pourtant, en ce jour de l'escalade, où la tradition veut qu'on se déguise, je me suis dit, et pourquoi pas porter ce que l'on aimerait dire. Alors ce matin, c'est un bout de mon côté d'Asiatique du Sud qui s'expose. Dans les traditions indiennes au sens large, c'est-à-dire aussi dans mon pays d'origine, le Sri Lanka, les couleurs sont symboliques. Elles expriment des valeurs, des émotions, et le orange symbolise souvent ce qui a trait au sacré, mais il est aussi la couleur de l'optimisme. Donc voilà, ce matin, mon sari signifiera cela, l'optimisme. Et c'est ce dont il sera question. Et pour commencer ce temps sur l'optimisme, je vous propose de lire un texte dans le livre de Job, et je vais lire le chapitre 17. Je respire avec peine, ma vie s'éteint, à moi la tombe. Avec moi, il n'y a que des moqueurs dont les agressions m'empêchent de dormir. Seigneur, apporte-moi donc ta garantie, car à part toi, qui voudrait s'engager pour moi ? Puisque tu as privé mes amis de bon sens, ne les laisse pas se croire supérieurs. C'est comme si celui qui invite ses amis à partager son pain alors que ses enfants languissent de faim. On a fait de moi le sujet des moqueries des peuples. Je suis celui sur qui on crache au visage. Mes yeux s'éteignent à cause du chagrin. Mon corps n'est que l'ombre de lui-même. Devant tout ce qui m'arrive, les gens droits restent sans voix. L'innocent s'indigne contre toute personne de mauvaise foi. Mais le juste persévérera dans sa conduite, et celui qui a les mains pures augmentera sa force. Vous tous, pourtant, changez d'avis et venez. Parmi vous, je ne trouverai aucun sage. Ma vie est terminée. Voici anéantis mes projets et mes désirs les plus intimes. Mes amis prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche, alors que c'est l'obscurité qui vient. Qu'ai-je encore à espérer ? Le séjour des morts est déjà ma maison. J'ai fait mon lit dans l'obscurité. À mon tombeau, j'ai crié « C'est toi mon père !» et à la vermine « Ma mère et ma sœur !» Où donc est mon espérance ? Mon espérance qu'il entrevoit ? Elle descend avec moi au séjour des morts. Nous nous enfonçons ensemble dans la poussière. Donc, j'étais en train de vous parler d'optimisme. C'est bien ça, hein ? Eh bien, ce texte transpire d'optimisme, n'est-ce pas ? Alors, je vous le concède, vous pouvez trouver cela bien curieux d'avoir choisi un texte aussi lugubre pour vous parler d'optimisme. Mais attendez de voir un peu où ce texte peut nous emmener. Ce livre de Job nous parle aussi d'une bataille qui eut lieu au cœur de la nuit. Non pas à Genève le 12 décembre 1602, mais bien longtemps avant. C'est dans le cœur, la tête et les prières de Job que s'est déroulée cette terrible bataille. Et si ce livre de Job vous fascine, n'hésitez pas à nous le dire à Philippe et à moi, et cela va peut-être pouvoir être le sujet d'un atelier biblique enrichissant. On est en quête d'inspiration à ce sujet, donc n'hésitez pas à nous faire signe. Job livre une bataille acharnée à la suite de circonstances tragiques où il a énormément perdu ses possessions, mais encore pire, sa famille. Si le ciel s'acharne contre Job, à qui la faute ? Qui en est le responsable ? Et c'est l'un des thèmes majeurs de ce livre. Job est entouré de ses amis. Ce sont des brillantes personnes qui essayent tant bien que mal de l'aider à comprendre, de l'aider à le soutenir ou alors de l'accabler. Mais quand on est au fond du trou, comme Job l'exprime dans ses lignes, il est très compliqué d'entendre ce que les autres disent, même les paroles les plus sensées et les plus bienveillantes. En fait, moi, je me reconnais assez bien en Job. Et sans doute que beaucoup de personnes qui sont passées par le tunnel de la dépression peuvent reconnaître cet état de quasi-mort, de sidération, d'envie de s'enfermer en soi-même, de ruminer et de pleurer. Comme le dit la complainte de Johnny Cash, Home of the Blues, et oui, j'écoute Johnny Cash, il fait si sombre dans cette maison du blues que le soleil n'arrive pas à percer au travers des fenêtres. La seule compagnie que l'on aime, c'est celle de notre misère, et on a envie d'abandonner, de se coucher en attendant la mort. Attendre la mort. Job n'a pas tout à fait tort. La mort est une étape inéluctable à notre parcours de vie. Et c'est important d'en parler. Le problème, ici, c'est que Job en parle comme s'il était déjà mort. Alors que non. La preuve, ce n'est pas auprès d'un tombeau, auprès du tombeau de Job que ses amis viennent se recueillir. C'est bien à un être vivant qu'il s'adresse. Quand on voit les choses sous cet angle-là, c'est une bougie qui s'allume à l'intérieur. Comme ces trois bougies qui s'allument là, ce matin, ce dimanche, qui jalonnent notre parcours vers Noël. La bougie, ce n'est pas une lumière qui nous permet de tout voir, c'est vrai. Mais ici, c'est une lueur suffisante pour témoigner que Job ne vit pas au fond du tombeau, car Job est vivant. Job est en relation, même s'il est trop sombre pour le réaliser. Tant que nous respirons, nous parlons, nous pensons, nous pleurons, nous prions, nous gémissons sur notre sort. Nous sommes vivants. Grâce à Dieu, nous vivons. Le vivant s'exprime, que ce soit dans la joie ou dans la souffrance. La mort, quant à elle, elle est inerte, sans expression. Job est vivant, et même s'il traverse les épreuves les plus douloureuses, il reste en vie. Des gens sont autour de lui pour le lui dire. Les amis de Job n'ont pas tort, eux aussi, lorsqu'ils disent « La nuit, c'est le jour, et que la lumière est proche. » Ils n'ont pas le tort d'aller vers Job pour témoigner de la lumière, même s'ils ont toutes les peines du monde à comprendre les ténèbres par lesquelles passe Job. Les ténèbres sont les ténèbres, finalement. Qu'y a-t-il à comprendre? C'est douloureux, c'est effrayant, on n'y voit rien. Mais la lumière est proche, si on y regarde de plus près. Après une nuit de bataille contre les Savoyards, le matin est venu pour les Genevois, et la victoire aussi. Pour les réformateurs, quelques dizaines d'années auparavant, la lumière était proche aussi. Ils avaient vu que les ténèbres n'étaient pas une fatalité, que si on cherchait bien au cœur même de l'écriture, la lumière brillait. Et c'est bien ce qu'ont voulu aussi dire les amis de Job au verset 12. La lumière est proche. À la sortie du Moyen-Âge, au début de la Réforme, la Bible circulait en latin. La version courante était la Vulgate. Et voilà comment était écrit ce fameux verset 12 du chapitre 17 de Job. Je me lance en latin. Et rursum post tenebras spero lucem. Et rursum post tenebras spero lucem. Et une fois encore, après l'obscurité, j'espère en la lumière. Post tenebras lux. Après l'obscurité, la lumière. C'est de ce verset qu'est tirée la devise de Genève, post tenebras lux. Sur ce verset que le mouvement de la réforme s'est appuyé pour parler au monde. Une phrase si lumineuse, si inspirante, mais une phrase qui se trouve au cœur d'un texte terriblement sombre. La lumière brille là où on s'y attend le moins. C'est ainsi. La lumière est là, toute proche. Elle est là depuis le commencement. C'est un message qui s'exprime depuis toujours, mais qui est souvent flouté, atténué par l'obscurité qui nous habite. Ce message, c'est celui du Christ. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Voilà ce que dit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Il n'y a rien de nouveau et pourtant c'est une révélation. Une révélation, c'est quand le voile qui obstrue la lumière est enlevé et qu'enfin la lumière peut percer. 1 Jean 2, les versets 7 à 11, dit ceci. Très chers amis, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est le commandement ancien que vous avez reçu depuis le commencement. Ce commandement ancien est le message que vous avez déjà entendu. Pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. C'est vrai pour Jésus-Christ comme pour vous, puisque l'obscurité s'en va et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend vivre dans la lumière tout en haïssant son frère ou sa sœur se trouve encore dans l'obscurité. Et celui qui aime son frère ou sa sœur demeure dans la lumière. Et ainsi, il n'y a rien en lui qui puisse le détourner de la foi. Mais celui qui a de la haine pour son frère ou pour sa sœur se trouve dans l'obscurité. Il marche dans l'obscurité sans savoir où il va, parce que l'obscurité l'a rendu aveugle. Je trouve que ce texte est magnifique et il répond bien en écho à celui de Job. L'obscurité s'en va, la véritable lumière brille déjà. La lumière est proche, elle s'est approchée, toujours plus vibrante, toujours plus éblouissante vers l'humanité. Car même si les ténèbres recouvrent la vue, assombrissent les cœurs et poussent à n'espérer à rien d'autre que le tombeau, le Dieu de lumière n'a rien à voir avec cela. Et ça, c'est la bonne nouvelle, celle d'une réalité tout autre, d'une porte ouverte, d'un chemin qui se trace devant nous, devant moi, devant chacun d'entre nous. Et pourtant, vivre entre ombre et lumière, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est là que la bonne nouvelle de Jésus nous soutient. La bonne nouvelle nous indique que le meilleur est toujours là et il est là depuis toujours. Et que le désastre ne l'a pas tué. Le meilleur vit et il est vivant. Et pour moi, ça, c'est l'optimisme. Vous pouvez penser que quand on parle d'optimisme, on ne parle que d'un trait de caractère ou d'une humeur positive. Mais pour moi, c'est bien plus que ça. Je peux me sentir parfois d'humeur optimiste, de voir la vie du bon côté, de trouver que le verre est à moitié plein. Mais il y a bien des jours, en fait, où le verre, pour moi, je le vois à moitié vide. Sans raison valable, en plus. Ce jour-là, tout est morose. Et c'est toujours le même vide qui s'ouvre en moi. Bref, mon humeur à moi, elle n'est pas du tout fiable. Il faut quelque chose de plus fort que ça. Il faut quelque chose de plus fort que moi pour tenir bon et me tenir ferme. Et pour moi, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Il est la lumière qui est entrée dans ce monde, qui est entrée dans mon monde, au cœur d'une nuit de bataille où je doute de tout et de moi en particulier. Dieu est lumière et il n'y a pas d'obscurité en lui. Et si le monde tient sur cette vérité, alors même la mort n'y pourra rien. C'est cela l'optimisme. L'apôtre Jean parle d'un symptôme révélateur d'une vie vécue dans les ténèbres. C'est la haine. Ressentir du dégoût, autrement dit, de l'aversion pour l'autre. C'est un ressenti très puissant que, je pense, nous pouvons tous détecter en nous. C'est un ressenti qui témoigne pas toujours du mal que représentent les autres, mais avant toute chose d'une obscurité qui est tapie là, à l'intérieur de nous. Et si Jésus, la lumière, est entré dans un monde obscur, c'est pour montrer le chemin pour en sortir. Alors certes, c'est vrai, il s'agit d'une voie étroite, mais il n'existe aucun autre chemin plus sûr que celui-ci pour aller vers la lumière. La voie en Jésus est étroite, car il est dur de s'extirper de nos encombrements, de notre accoutumance aux ténèbres. Cela demande un courage qu'on doute souvent d'avoir. Cela demande de faire taire les pensées fatalistes pour suivre le chemin de l'optimisme. Ce chemin qui s'ouvre à nous, telle une main tendue pour nous secourir. Vouloir être secouru. Accepter qu'on ait besoin d'être secouru. Je crois que c'est bien ce qui nous réunit ici, qui fait de nous la communauté que nous sommes. Ce qui nous réunit tous, ce qui est commun entre chacun d'entre nous, c'est d'avoir accepté d'être secouru par Jésus. Nous avons réalisé que les ténèbres nous poussaient vers un leurre. Une lueur s'est alors manifestée pour nous ouvrir la voie vers la lumière qui est proche. Alors, s'il est vrai que nous pouvons encore bien avoir des nuages qui nous traversent, même aussi des tempêtes qui peuvent nous donner l'illusion d'être submergés par les ténèbres, cela ne changera jamais la bonne nouvelle. Dieu nous dépasse de loin, et pourtant, il est juste là. La voie optimiste est toujours ouverte. En cette période de l'Avent, nous pouvons nous souvenir de cette main tendue qu'un jour nous avons acceptée. Nous pouvons nous souvenir que c'est Christ qui est la lumière du monde et qu'aucune obscurité ne l'éteindra. C'est plus fort que nous. C'est ce qui nous sauve. Post tenebras lux. La lumière est proche. Dieu est lumière et il s'est rendu proche de nous. Amen.
Seigneur, merci pour le message que Célina nous a apporté, que nous puissions le méditer ces prochains jours et mettre en pratique ce que nous avons entendu. Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir accepté de quitter le ciel et d'être venu jusqu'à nous, de nous avoir tellement aimés que tu as accepté de mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à transmettre cette bonne nouvelle à d'autres qui ne te connaissent pas. Merci parce que nous te rejoindrons un jour auprès de ton Père au ciel, mais en attendant, nous avons besoin de toi, de ton aide pour être des lumières qui brillent dans les ténèbres de notre monde. Merci Seigneur pour la promesse que tu ne nous abandonneras jamais. À toi soit la gloire, Jésus. Amen.
on va faire la bénédiction finale. Et après, je vous demanderai de vous rasseoir juste pour les annonces. Donc, maintenant, on peut se lever. Je vais vous la lire dans 1 Timothée 6, les versets 11 à 16. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration de foi face à Ponce Pilate, je te le recommande. Obéis au commandement reçu. Garde-le de façon pure et irréprochable jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ se manifestera. Cela interviendra au moment qui appartienne à Dieu, le souverain unique, la source du bonheur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Aucun être vivant humain ne l'a jamais vu, ni ne peut le voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Allez sur votre chemin dans votre semaine. La lumière est proche de vous. Gardez l'espérance que Dieu est proche de vous et recevez sa paix. Amen. Bonne semaine.
Bonjour à tout le monde. J'ai le grand privilège de terminer et donc vous faire patienter un très grand moment. Dimanche 12 décembre, j'ai trouvé sur Internet qu'en 1907 est né Jean Trouillard, un célèbre professeur théologien français. Alors, les gens Trouillard ne sont pas des adeptes de sa philosophie, mais bon, voilà, c'est des choses qu'on apprend, qu'on sait, puis des fois ça sert à rien, mais ça détend. 12 décembre, j'ai appris que certains ont encore des marmites. Alors, sachez qu'on a le grand privilège, comme à l'époque, on était sur le calendrier julien. En fait, l'attaque aurait dû se passer le 21 et 22, entre le 21 et le 22 décembre, du calendrier grégorien. Donc, si vous reste des marmites et que vous les refaites encore l'escalade, il n'y a pas de souci, vous pouvez le refaire encore le 21 et le 22 décembre. Bon, plus sérieusement, en ce qui concerne notre église, donc mardi 14 à 19h15, nous avons la rencontre du conseil. Vendredi 17, le fil d'argent se fait. Voilà, il y a une slide qui est présentée. À 14h30, vendredi 17 décembre, et puis c'est ouvert à tout le monde. Vendredi 17, toujours à 17h, fête de fin d'année du caté. Le dimanche 19 à 10h, le culte de Noël, alors en toute simplicité, vu les mesures sanitaire qui nous limite dans nos activités et dans tout ce qu'on aimerait pouvoir faire. Ensuite, mardi 21 décembre, réunion de prière, et il y aura la présence de Joshua Porter lors de cette réunion de prière. Ensuite, les actions de Noël. Alors normalement, on a une slide. Mais vous trouverez, donc c'est les actions de Noël de la Frey, vous trouverez des petits dépliants à la sortie qui concernent deux actions. Une première concernant les soins infirmiers au Laos, donc c'est deux actions qui sont pour le Laos. Donc une école de soins infirmiers et puis une autre qui est pour soutien, pour notamment l'achat d'une voiture qui est bien utile sur place, donc Dieu au volant d'une retraite active. Voilà, donc vous avez des dépliants qui sont à la sortie, et puis c'est des actions de Noël qui sont proposées par la Frey, qui sont des actions qui se font à titre privé, et pas forcément l'Église qui donne, mais que chacun ait la liberté de donner. Ensuite, concernant le camp de ski du groupe de jeunes cet été, vous avez à la sortie un panneau sur lequel vous pouvez décrocher des petits billets pour récolter des denrées et puis les apporter aux jeunes pour leur camp de ski. Donc n'hésitez pas, il y a très peu de monde qui se sont déjà annoncés. C'est un petit clin d'œil, mais il y a déjà, je crois, pas simplement de tickets, mais continuez à les prendre. Ça leur fait plaisir, c'est une manière de soutenir nos jeunes pour leur camp de ski. Sinon, vous avez, comme la semaine passée, le jus de pomme chaud qui est servi. Alors, c'est assez simple pour le trouver. En sortant, vous passez devant, vous savez, cette étagère où vous pouvez faire une offrande et puis aussi des bulletins de versement. Vous tournez juste à droite et puis vous avez une table en haut et puis une table en bas. Et sauf erreur, il y en a peut-être encore une en sortant en bas. Vous pouvez prendre un jus de pomme chaud, garder les distances puisque vous enlevez vos masques pour boire. Enfin, je l'espère pour vous. Et puis, alors voilà, dernière annonce. Ça, c'est juste pour boucler la boucle. Donc, pour ceux qui souhaitent reprendre leur sac à soucis au vestiaire, ne les oubliez pas, sinon le Seigneur Jésus s'en charge. Et je vous assure que je ne ferai pas d'annonce pour les objets trouvés, enfin les soucis trouvés la semaine prochaine. Bon dimanche.